Vous écoutez IDFM, il est midi. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur IDFM, votre radio, la radio qui nous rassemble, pour votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez, votre rendez-vous mensuel Santé et Sérénité. Nous traitons tous les premiers samedis de chaque mois à midi de sujets inspirants qui se proposent de nous éclairer sur notre conscience à être à soi et au monde. Je m'appelle Céline Dupuis. En tant que thérapeute par le yoga et énergéticienne par le soin de la trame, je suis très intéressée par toutes les approches thérapeutiques de mes collègues. Et aujourd'hui, je reçois Monique Pellerin. Elle exerce en tant que médecin et aussi comme professeure d'astronomie pour les détenus. Monique nous dira ce qui l'a amenée à étudier l'astronomie et aussi à choisir de transmettre cette science en prison. Bonjour Monique Pellerin, comment vas-tu ?
Bonjour Céline, je vais très bien et je te remercie de me recevoir aujourd'hui.
C'est une très grande joie pour moi, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à étudier l'astronomie alors que tu es médecin ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est ce passage ?
Bien, le hasard, comme beaucoup, les circonstances. Comme tu l'as dit, je suis médecin. Je suis exactement radiologue, donc déjà quand on est radiologue, on aime bien la physique en général, hein. On en fait pendant nos études et on aime bien ça. Alors j'ai découvert l'astronomie totalement par hasard, tout simplement alors que j'étais encore étudiante, un livre aperçu dans la vitrine d'une librairie. Un livre d'astronomie bien sûr, avec une belle image en couverture qui a attiré mon regard. Et pourquoi ce jour-là, ça m'a fait cet effet ? Pourquoi cette matière-là ? Je ne peux pas dire. C'est mystérieux, comme tous les coups de foudre, sans doute. Et j'ai donc acheté ce livre, je l'ai lu, et à la suite de ça, le goût de l'astronomie ne m'a plus jamais quitté. Alors l'astronomie, il y a plusieurs façons de s'y intéresser, hein. On peut être observateur, ou on peut être plutôt théoricien. Quand je dis théoricien, quand on est amateur, ça veut dire écouter les explications des autres, hein. Être observateur, quand on est encore une fois un modeste amateur, consiste à utiliser un petit télescope, personnel ou dans une association. Alors c'est très difficile, parce que d'abord, dans les villes, comme on le sait de plus en plus, il y a une pollution lumineuse terrible, qui empêche absolument de voir le ciel. Donc on est dans de très mauvaises conditions. Ou alors il faut sortir de la ville, il faut aller en rase campagne, c'est pas facile. Et puis tout simplement aussi, c'est difficile parce que les étoiles s'observent la nuit.
Oui.
Et la nuit, eh bien ce n'est pas toujours compatible avec une vie professionnelle, avec une vie personnelle, de se lever et pour aller mettre son œil derrière un télescope.
Oui, parce que si tu es maman, donc il faut tout organiser.
Voilà. Donc, c'est difficile et en plus, je dois avouer que, à mes yeux, l'observation dans de telles conditions est finalement décevante. Parce qu'on a tellement l'habitude de ces sublimes photos prises par les gros télescopes, qu'ils soient terrestres ou qu'ils soient dans l'espace, que la modeste image que l'on voit dans l'oculaire de son télescope, c'est vraiment tout petit et pas grand-chose. Alors, on a beaucoup parlé toute cette dernière année du fameux télescope James Webb qui a été envoyé dans l'espace et qui tous les jours nous envoie des photos fabuleuses. Alors on peut pas comparer, on peut pas lutter. Donc moi, j'ai toujours préféré plutôt la théorie, qui veut nous expliquer tout ce que l'on voit et aussi tout l'univers. Alors, quand on dit astronomie, en fait, on sous-entend des métiers, des tas de métiers totalement différents. Exactement comme les médecins. Vous avez un généraliste et vous avez des tas de spécialités que vous connaissez tous. C'est pareil en astronomie. Vous avez les astrophysiciens, vous avez les cosmologistes, les physiciens des particules, les planétologues, des géologues comme sur la Terre, des chimistes. Bon, et j'en oublie beaucoup. Donc, à titre personnel, j'ai beaucoup lu, beaucoup appris en autodidacte, avec les nombreux livres et journaux de vulgarisation scientifique. Puis au bout de quelques années, j'étais tout de même insatisfaite de toutes ces connaissances dans le désordre. Et je savais bien qu'il me manquait les bases de raisonnement. On sait les détails, mais on ne sait pas les bases quand on est un autodidacte. Donc j'ai passé un diplôme d'université d'astrophysique à la faculté d'Orsay, simplement pour ordonner mes connaissances, pour mon plaisir.
Alors que tu avais déjà fait toutes ces études pour être médecin?
Oui, mais c'était un bon moment après, car j'ai passé ça plusieurs années après, puis j'ai fait ça par correspondance, voilà.
Wow.
Et j'ai passé mes 2 années d'astrophysique. Et là, j'ai enfin eu ces bases de raisonnement qui me manquaient. Et là, on a tout de suite l'impression qu'on comprend beaucoup mieux. Alors, après, l'astronomie, c'est une science qui est très ouverte, par définition. Et tout naturellement, quand on s'y intéresse, au bout d'un moment, la pensée finit par quitter les choses matérielles et par se tourner vers la philosophie, vers la spiritualité, au sens le plus large du terme, et même vers les religions, parce qu'elles aussi, elles ont essayé d'expliquer l'univers, tout autant qu'elles sont. Elles ont voulu expliquer l'univers, elles ont voulu expliquer l'homme. Et l'astronomie débouche aussi sur la physique, sur la musique. Elle se sert de la physique, mais elle débouche sur la musique également. Je pourrais même dire qu'elle est musique, car devant toute cette immensité, devant ce mystérieux qui nous étreigne, il y a un moment où les mots n'ont plus de sens. Ils sont faibles. Et seule la musique peut prendre à ce moment-là le relais de la pensée pour exprimer l'inexprimable. D'ailleurs, beaucoup d'astrophysiciens professionnels, eux aussi, ont complété leurs études et sont devenus des agrégés de philosophie en plus. Beaucoup sont également des musiciens. Il y a même eu des religieux. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est l'abbé Lemaître. Son nom n'est pas connu, mais c'est un astrophysicien absolument immense du début du XXe siècle. C'était un contemporain d'Albert Einstein. Et cet abbé Lemaître est en fait le père de la théorie du Big Bang, cette théorie qui nous explique comment notre univers un jour est né. C'est lui donc qui a fait cette théorie, c'est lui également qui a prouvé l'expansion de l'univers et bien d'autres choses aussi. D'ailleurs, quand on regarde historiquement toujours, dans l'Antiquité et même au Moyen-Âge, l'enseignement de l'astronomie dans les écoles était toujours lié à l'étude de la géométrie et de l'arithmétique, ça on s'en doute, mais il était lié aussi à l'enseignement de la musique, ça allait ensemble.
Ah, ça je ne savais pas du tout.
Voilà, et du coup, j'ai prévu une petite musique pour illustrer ce que je viens de dire.
Oui, tout à fait, tu as prévu de nous partager plutôt le titre qui s'appelle Misty, d'Errol Garner.
Oui.
À Alors, c'est un standard de jazz. Alors, oui. On l'entend beaucoup, moi, quand j'entends Misty, j'entends Ella Fitzgerald, j'entends Sarah Vaughan, j'entends Frank Sinatra. Mais là, tu as choisi de nous partager un titre au piano.
Oui, et il y en a énormément de versions différentes, parce que les thèmes de jazz, ce sont des thèmes. Et après, les pianistes fabuleux que sont les jazzmen nous font des variantes qui peuvent durer des heures. Donc, j'ai choisi une de ces variantes parmi beaucoup d'autres.
Que nous allons écouter, et tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi ce titre ensuite, si tu veux bien. Misty, d'Errol Garner. Nous venons d'entendre Misty d'Errol Garner. Vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Vous écoutez votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis en compagnie de Monique Pellerin, un médecin professeur d'astronomie pour les détenus. Alors Monique, tu nous as promis de nous expliquer pourquoi tu as choisi ce titre, Misty d'Errol Garner.
Eh bien, je trouve que dans cette musique d'Errol Garner, il y a une certaine analogie avec l'astronomie. C'est l'alliance d'une apparente facilité, d'une apparence légèreté, avec en fait, en arrière-fond, pour construire tout cela, une très grande rigueur. des rythmes complexes, des mélodies qui s'entremêlent. Ça a l'air d'être un hasard, mais pas du tout. L'intrication de sonorités inhabituelles, et il faut une très grande maîtrise pour arriver à jouer un tel morceau qui en apparence est si facile et donne une impression de petites choses qui coulent, mais non, en fait, pas du tout.
Mais souvent, l'intelligence, quand elle est vraiment là comme une inspiration, on sent que c'est simple.
C'est vrai ce que tu dis. On pourrait même dire que tout ce qui est bien fait paraît simple. Même le geste le plus simple du monde, planter un clou, quand on le plante bien, quelqu'un qui sait faire le geste, ça paraît très simple.
L'acte est juste.
Voilà. Quoi, quand tu essayes, tu fais tordre le clou. Eh bien, c'est pareil. Et toutes ces intrications entre les sonorités que l'on trouve dans Misty les illustrent aussi. Et l'astronomie, comme toutes les matières finalement, mais notamment les sciences en général, c'est ça. C'est-à-dire, il y a deux niveaux d'explication. On peut donner des explications très simples pour expliquer un phénomène naturel. Par exemple, comment expliquer l'arc-en-ciel, là, que l'on voit. On peut le dire très simplement, on peut l'expliquer à des enfants. On peut donner des explications très simples de cette façon à toutes ces observations usuelles du quotidien. Et pourtant, si on veut vraiment les expliquer, là, on va rentrer dans une physique beaucoup plus complexe. Quand vous prenez l'exemple de l'arc-en-ciel, par exemple, il va falloir que vous expliquiez à la personne les propriétés de la lumière. Comment cette lumière va changer en entrant dans une goutte d'eau dans le nuage? Et là, ça demande des connaissances. Et puis, une fois qu'on a expliqué un élément habituel, eh bien, encore une fois, on laisse la pensée dériver. Cela aboutit d'abord au rêve. D'accord, mais après, en continuant à réfléchir un peu, on a envie de donner un sens à cet univers. Un sens à notre présence, nous, humains. Et alors là, la science ne suffit plus.
Oui, ça nous dépasse.
Et oui, la science vous dit le comment, elle ne vous dit pas le pourquoi. Donc, on ne peut continuer qu'avec une pensée philosophique, avec la spiritualité. Donc, en définitive, cette alliance d'apparente facilité au premier degré est de grande complexité, je dirais même une complexité sans fond et sans fin, au deuxième degré.
Et ça demande beaucoup d'humilité, hein, ce que tu dis là, parce que tu es un grand médecin, une grande astronome, et là j'entends que quelque chose te dépasse.
Mais on ne cesse de se le dire dans toutes les matières. Oui. Un médecin sait bien que il ne sait pas tout et qu'il ne soignera pas tous ses patients. Il ne pourra pas. Ce n'est pas dans ses possibilités. Et un astronome qui fait de la recherche toute sa vie dans un domaine sait bien qu'il n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Et personne n'est plus modeste que ces gens-là, justement, qui font de la recherche, parce qu'ils savent que ce qu'ils construisent, le modèle qu'ils construisent, est vrai jusqu'à ce qu'on ait prouvé le contraire. Hmm. Et c'est pourtant le travail de toute leur vie.
Qui repose aussi sur le travail de toute la vie, peut-être d'anciens savants.
Bien sûr.
Donc c'est plusieurs vies, et pour autant, quelque chose reste mystérieux.
Comme l'a dit l'un d'eux, nous sommes juchés sur des épaules de géants. Ce sont nos prédécesseurs.
Oui.
Voilà. Et pourtant, on sait bien que tout ce qu'on peut trouver peut être annulé du jour au lendemain, que ce soit en médecine ou en astronomie. On peut d'ailleurs montrer soi-même qu'on s'est trompé avant.
Et oui.
Ce qui est la plus grande modestie.
Et tu as voulu partager aussi, du coup, cette science.
Et oui, alors pourquoi enseigner ? Ça, n'importe quel, tous les enseignants répondraient comme moi. Quand on aime quelque chose, ben on a envie de le partager, tout simplement, avec d'autres. On a envie d'exprimer notre émerveillement, mais aussi et surtout nos questions. De la même façon que l'on aime conseiller à des amis un film, un livre, un lieu qu'on a aimé, eh bien, on a envie de partager ce que l'on sait. Mais ce n'est pas toujours facile de partager, surtout quand il y a un langage de base à connaître, ce qui est toujours le cas en science. D'ailleurs, il y a toujours un langage de base à acquérir et des connaissances. Sauf peut-être pour conseiller la dernière série que l'on a aimée, mais bon, c'est tout. Et il faut trouver des personnes qui s'intéressent au même sujet, ce qui n'est pas si facile en ce qui concerne les sciences en général et l'astronomie en particulier. Parce qu'il y a toujours un premier contact qui peut être austère. Donc, il faut oser. Alors, une manière de partager, eh bien, c'est d'enseigner. Alors, enseigner ne veut pas dire qu'on soit le plus compétent du monde, pas du tout. On peut enseigner, quelle que soit l'étendue des connaissances, qu'elles soient petites comme grandes. On peut toujours transmettre ce que l'on sait, en toute modestie. Exactement comme une grand-mère qui transmet des recettes de cuisine à ses petits-enfants, sans prétendre elle-même être un chef étoilé. Et puis, tout enseignant sait que c'est le meilleur moyen de consolider ses propres connaissances, de les revoir sans cesse, et de les affiner.
En tant qu'enseignante, moi aussi, je le dis tout le temps, c'est mes élèves qui me permettent de continuer à apprendre.
Eh oui, de même que nos enfants nous éduquent.
De même que nos enfants nous éduquent, exactement.
C'est un rapport bilatéral. Alors, dans le cas des sciences, en général, cette approche est lente. Elle est graduée, parce qu'il y a des notions de base qui sont incontournables et un langage spécifique, même en restant dans la simple vulgarisation. On ne peut pas ignorer ce langage, sinon on ne peut pas se comprendre. Et on dit des mots vagues qui n'ont pas vraiment de sens et finalement on s'ennuie. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de partager l'astronomie que j'avais depuis longtemps dans la tête et que j'ai décidé de le transmettre à d'autres. Et heureusement, comme j'avais passé justement ce diplôme d'université en astrophysique, qui est fait justement pour des gens qui veulent faire de la vulgarisation, j'ai pu réaliser ce que je souhaitais.
Mais alors du coup, c'est extraordinaire parce que j'imagine qu'il faut peut-être entrer par la rêverie. Quel est le point d'entrée de la transmission ? Parce que tu as affaire forcément à des élèves qui sont peut-être avec cette idée « Oh, l'astronomie me fait rêver, mais comment vais-je l'aborder ?» Parce que c'est quand même la science du plus grand, de ce qui nous dépasse. Alors, la science du plus petit aussi nous dépasse, hein.
Alors, tu as raison, les deux nous dépassent, mais la connaissance du plus grand vient peut-être avant celle du petit, parce que justement, on le voit, alors que le petit, on ne le voit pas. Donc, on peut l'ignorer encore. Tandis que ce qui est très grand, le ciel, il suffit de lever la tête. Et chacun de nous, même tout petit, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette lumière dans le ciel qui brille ? Elle est où ? C'est quoi ?
À commencer par la lune.
Voilà.
Elle nous fascine tous.
Voilà.
Le soleil.
Bien sûr. Bien sûr. Et je ne sais pas si on vient à l'astronomie par le rêve. Pour moi, peut-être parce que je l'ai vécu comme ça, le rêve et la réflexion, surtout la réflexion, sont venus après la connaissance. Parce que justement, on regarde simplement le ciel au départ, et après quand on sait ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on ne voit pas qui est derrière, tout ce que la sous-tend, On est tellement éberlué, notre cerveau n'arrive même pas à assimiler vraiment. Nos sens n'y arrivent pas. Notre cerveau le conçoit, mais nos sens ne le conçoivent pas.
Tout à fait.
Les distances trop énormes ne veulent plus rien dire pour nous.
Oui, quand on parle d'expansion d'univers, c'est trop. Ça nous...
Voilà. On nous explique...
Et en même temps, on veut comprendre.
Voilà. On voit des étoiles qui sont là tous les jours, et quand on vous explique, non, pas du tout. Elles sont en train de s'en aller de nous à une vitesse folle. Elles s'éloignent. On a du mal à l'admettre, parce que nous, tous les jours, on les retrouve au même endroit.
Tout à fait. Mais c'est comme là, par exemple, j'écoutais Nassim Haramein, c'est dans la science du tout petit, et de l'infiniment petit, et il parle de vide quantique. Et alors là, je veux comprendre, moi ça me passionne la science quantique, notamment en tant qu'énergéticienne, mais mon cerveau ne comprend rien. C'est la même chose avec l'astronomie. Je ne l'ai pas encore étudié, mais j'imagine cette passion, et en même temps de sentir que le cerveau arrive à comprendre, et il ne comprend plus rien.
Alors ce qui est aussi très merveilleux, et tu as raison de dire ça, c'est que justement l'infiniment grand et l'infiniment petit sont liés.
Oui.
Car quand on veut t'expliquer l'infiniment grand, on est obligé d'aller vers l'infiniment petit. Et alors qu'on regarde l'infini, on est obligé de penser infiniment petit en même temps. Car c'est la mécanique quantique aussi qui nous explique pourquoi les phénomènes ont lieu, même à très grande échelle. Donc, les deux sont liés en droite ligne.
Oui, c'est ce que disait Planck, que je n'ai pas la phrase exacte, oui. Mais que l'infiniment grand et l'infiniment petit, finalement,
sont reliés.
Sont complètement reliés.
Sont reliés. Mais alors, c'est vrai que la mécanique quantique, je n'avais pas l'intention d'en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que la mécanique quantique échappe complètement à nos sens, car on nous dit exactement le contraire de ce qui, pour nous, est naturel. Un objet peut être là ou être là. Il n'est pas aux deux endroits à la fois. Or, la mécanique quantique vous dit si, l'objet est à la fois dans deux endroits en même temps, entre autres. Donc ça, nous, on ne peut pas l'admettre. Et on passe par les maths, parce que là on ne peut pas.
C'est ça. Pour essayer de digérer tout ça, Monique, tu nous as proposé un titre que je ne connaissais pas, qui est vraiment magnifique, sur la place qui est de Jacques Brel. Et tu nous expliqueras après l'écoute pourquoi tu nous proposes ce titre magnifique que tu me fais découvrir et aussi pourquoi tu enseignes à des détenus. Merci beaucoup.
Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Et pour ne point entendre de chant, les hommes ferment les carreaux comme une porte entre morts et vivants. Ainsi certains jours paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée. Et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes leur destinée.
Nous venons d'entendre sur la place une chanson de Jacques Brel. Vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations, et vous écoutez votre émission Les Passages. Entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis, je suis aujourd'hui en compagnie de Monique Pellerin, un médecin, professeur d'astronomie pour les détenus. Monique, tu nous as promis de nous expliquer à la fois pourquoi tu as choisi cette chanson de Jacques Brel et pourquoi tu as choisi d'enseigner à des détenus en prison. Alors, nous t'écoutons.
Merci Céline. Eh bien, cette chanson de Jacques Brel, pour moi d'abord, c'est un merveilleux souvenir. C'est une très vieille chanson, hein, mais je l'ai entendue pour la première fois quand j'étais enfant. J'avais une dizaine d'années. Et déjà à cette époque-là, j'ai senti toute la symbolique de cette chanson. Et cette chanson, je l'ai prise comme symbole de partage aujourd'hui, comme symbole d'échange. Car dans ce très beau texte, une fille chante, danse sur une place, et pourtant tous les volets des maisons restent clos devant cette fille. Pourquoi ce refus ? Il n'y a rien de dangereux dans une danse et dans un chant. Pourquoi le refuser ? C'est ce que l'on voit dans toute notre vie. Ce sont des refus au nom des conventions, au nom des habitudes, au nom d'un immobilisme confortable et surtout d'une méfiance devant l'inconnu. Alors que finalement, toute curiosité, de la plus petite à la plus grande, apporte une lumière à la vie. Et sans doute, cette envie de partager l'astronomie que j'avais en arrière-pensée depuis longtemps, elle est née de textes de ce genre, qui nous font tellement bien sentir combien les autres sont obligatoires et incontournables pour nous. Alors un jour, je savais que j'avais envie de partager ça avec d'autres. J'avais d'abord pensé à des enfants, mais finalement les enfants, ils sont très sollicités par des tas de choses. Ils pouvaient rencontrer l'astronomie d'autre manière que par moi. Et il y a tellement de choses pour eux. Et un jour, il m'est venu à l'idée, je ne sais même pas exactement pourquoi, de proposer cette connaissance à des détenus. Alors, des détenus, je n'avais pas d'attirance particulière pour le monde de la détention. Je n'avais pas de circonstances autour de moi qui me fassent m'y intéresser. Alors, la seule raison que j'ai trouvée, elle est très triviale. C'est tout simplement qu'en faisant mes courses chaque semaine, je passais devant une maison d'arrêt.
Ah, d'accord.
Alors, peut-être l'idée est-elle née à ce moment-là. Alors, un jour où j'avais un peu de temps devant moi, j'ai été proposer mes services. Et d'emblée, j'ai trouvé des personnes très ouvertes.
Ah,
et
ça alors.
Les enseignants de cette maison d'arrêt se sont montrés très ouverts à mon égard. Ils m'ont accueilli avec un grand intérêt. Et bon, cela a mis des mois, bien sûr, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais ils m'ont ouvert une de leurs salles de cours et ils ont commencé par me constituer un groupe de jeunes détenus.
Volontaires.
Tous volontaires, bien sûr. Et ils ont essayé de faire que j'ai des jeunes qui aient un... pas forcément un niveau scolaire important. Hein. Ce sont des jeunes qui ont arrêté très très tôt les études, dans le primaire ou au début du secondaire, simplement. Et ce sont tous des jeunes qui ont quitté la scolarité prématurément et qui étaient déjà inscrits pour un enseignement au sein de la maison de détention. D'abord, la loi le demande pour les jeunes. Et donc, ces jeunes, on leur proposait un enseignement spécifique, validant, qui avait pour but de les aider dans leur future réinsertion. Et donc, ces jeunes qui suivaient déjà un programme avec les enseignants officiels, on leur a proposé donc une initiation à l'astronomie, donc avec moi, dans comme un instrument de culture générale. Hein. Aucun lien direct avec leur programme scolaire. Et c'était sur la base de volontariat.
Plusieurs fois par semaine ou...
Non. Une fois, un cours de 3 heures tous les 15 jours, pour être précis.
D'accord.
Voilà. Alors après, il a fallu organiser mes cours, puisque je ne suis finalement ni astronome, ni enseignante.
C'est là où commence l'enseignement du professeur.
Voilà. Alors j'ai donc pendant plusieurs semaines largement préparé mes cours, bien entendu. Mais alors, je dois avouer que ma première entrée dans un centre de détention a été physiquement un choc.
Oui.
Parce qu'on croit connaître, parce qu'on le voit dans de nombreux films, dans des livres. C'est une chose, mais quand vous-même, vous franchissez les différents postes de contrôle à chaque couloir, il n'y a pas qu'un poste, il faut tous les franchir, les uns après les autres. Quand vous vous voyez marcher dans des couloirs cernés de barreaux, ben vous avez la gorge serrée.
Et l'ambiance.
L'ambiance est très lourde.
L'énergie, oh là là.
Vous sentez que c'est pas un endroit heureux, ouais. Tout de suite.
C'est pas normal d'être
non,
là.
Non. Vous sentez la contrainte, c'est physique, évidemment. Et vous êtes étreint par une immense tristesse. Il faut arriver à garder le sourire. Tout est difficile dans ce contexte. Et il faut s'y frotter pour le comprendre.
Et oui, ne pas anesthésier, continuer de ressentir.
Mais tout est difficile, quand je dis ça, c'est sur le plan matériel. Ne serait-ce que la venue des détenus jusqu'à la salle de cours. Arriver de leur cellule à la salle de cours. Il leur faut passer les différents postes de contrôle, les uns après les autres. Qu'on leur ouvre à bon escient, parce qu'ils n'ont pas forcément le droit de se rendre n'importe où, n'importe quand. Les sonneries d'alarme sont très fréquentes dès qu'il y a un incident, et automatiquement tout est bloqué, donc plus personne ne bouge. Il peut y avoir d'autres convocations qui empiètent sur l'heure de cours, des convocations de santé, de parloir, d'administration... Également des participations à la vie matérielle de la prison auxquelles les détenus s'inscrivent eux-mêmes. Hein. L'entretien des locaux. Donc finalement, en définitive, l'arrivée des élèves s'échelonne parfois tout le temps des 3 heures de cours.
Ah oui,
ce sont 3 heures très théoriques.
Donc, s'ils ont manqué le début...
Voilà, ils peuvent arriver au milieu, ils peuvent partir avant la fin, ils peuvent ne pas pouvoir venir à une séance et venir à celle d'après. Au début, j'étais très dépitée de ça. Je me disais, mais moi encore, c'est de la culture générale. Mais comment font les enseignantes qui ont un programme et ces détenus qui ont un examen à passer à la fin de l'année? Alors, pour ça, les autres enseignantes... m'ont beaucoup appris. Elles m'ont appris que l'on fait avec ce dont on dispose.
Et oui, bien sûr.
Et qu'il ne faut pas considérer dans notre raisonnement ce que l'on n'a pas fait, mais ce que l'on a réussi à faire. Et si vous avez un élève qui a réussi à venir à son cours, eh bien, il faut s'en féliciter.
Voir toujours le verre à moitié plein
toujours.
Que celui à moitié vide.
Il faut oublier les 12 autres qui n'ont pas pu venir. Il y en a un qui a pu venir.
Et
ça rend
réjouir.
Très philosophe.
Ah oui.
Alors maintenant, le bon côté, maintenant que j'ai dit le mauvais. Dès le premier cours, je me suis trouvée devant des regards ouverts, intéressés, qui demandaient.
Ah, ça c'est le cadeau pour des professeurs.
Absolument. La communication a été très rapide et elle n'a fait que grandir au fur et à mesure des cours. Alors j'ai vite compris aussi que enseigner à des adultes est particulier. Alors, je le savais tout de même avant, parce que même si je ne suis pas enseignante, j'ai été amenée à faire des cours pendant dans mon cursus de médecin. En hôpital universitaire, on est tous amenés à le faire. Donc, j'avais déjà enseigné à des adultes, mais j'ai vérifié que c'est un enseignement particulier. Parce que d'abord, un adulte a une capacité de concentration beaucoup plus grande qu'un enfant. Un enfant, on sait bien, 10 minutes, on a 10 minutes pour expliquer quelque chose à un enfant. Après, c'est fini. Bon, là, la concentration est beaucoup plus longue. Également, leur curiosité est construite. Ils savent déjà à cet âge-là ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Elle est orientée par leur goût personnel, ce qui est bien normal. Donc déjà, mon enseignement étant du volontariat, ils viennent s'ils veulent bien, c'est qu'ils avaient quand même une appétence pour cette matière-là. Même s'ils ne le savaient pas eux-mêmes, ils avaient quand même une curiosité qui les a fait venir. Alors, vulgariser l'astronomie a un versant très ludique, car on peut montrer beaucoup de photos.
Exact.
Il y a une infinité de magnifiques photos prises par des télescopes pour illustrer ce que l'on explique. Donc, c'est très agréable. Il y a aussi beaucoup d'anecdotes à raconter qui émaillent l'histoire de toutes les grandes découvertes en astronomie comme ailleurs. Des histoires d'hommes, des histoires de hasard, des choses drôles, des choses tristes. C'est un enseignement très vivant. Par contre, il faut aborder des notions de physique pour comprendre. Il n'y a pas que les belles photos. Sinon, on s'ennuierait vite à regarder des photos magnifiques sans comprendre exactement à quoi elles correspondent. Là, le sujet devient austère. Il faut commencer par le début pour progresser. Donc, l'approche est lente. Il faut que ces personnes qui ont souvent eu une scolarité très courte, qu'ils ont quittée depuis de nombreuses années, il faut qu'elles aient le temps de se familiariser avec un langage spécifique. Mais je me suis vite aperçue que je pouvais aborder toutes les notions, même les plus sophistiquées, à condition bien sûr de rester qualitatif. Il n'est pas question de formules de physique, comme à l'école, de faire des problèmes avec des formules et des unités. Non, ça non.
Là, tu les perds.
Voilà, je les perds. Et je me perdrai aussi,
oui,
parce que ce n'est pas mon métier. Il ne s'agit que, et je mets le « que » entre guillemets, il ne s'agit que de vulgarisation. Et puis, on s'aide d'exemples très concrets, d'explications de phénomènes que l'on observe sans arrêt. Je prenais l'exemple de l'arc-en-ciel tout à l'heure. Il y en a tellement d'autres dans notre quotidien. Pourquoi le ciel est bleu?
Oui.
Alors que le soleil est jaune? Des choses comme ça.
Ça m'est arrivé même une fois de voir un arc-en-ciel, autour du soleil.
Ah,
tout autour, ouais, du soleil. J'ai jamais compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Certains m'ont dit aussi, j'ai vu un arc-en-ciel autour de la lune une fois. Là aussi. Tu vois, là, c'est des choses, ouais, que j'aimerais beaucoup que tu nous expliques.
Pas aujourd'hui, il faut que je schéma.
Oui, oui.
Voilà, donc on peut expliquer beaucoup de choses naturelles, de choses qu'ils ont constatées. Et puis, bah, ce jour-là, on leur donne l'explication et on est surpris de voir à quel point ça les intéresse énormément. Évidemment, quelquefois aussi, ça débouche sur des plaisanteries très, très drôles à propos même de leurs antécédents personnels. Ça arrive. Et puis, au-delà de la physique, bien sûr, j'évoquais tout à l'heure le lien naturel de l'astronomie avec la philosophie et la spiritualité. Alors, ce lien se fait particulièrement spontanément dans ce milieu-là.
Ah,
parce
oui.
qu'évidemment, ils se posent beaucoup de questions. Ils sont là, et même s'ils n'avaient pas ces cours d'astronomie, je pense qu'ils réfléchissent beaucoup. Ces personnes, pour la plupart, n'ont pas bénéficié d'une instruction, d'un encadrement correct dans leur enfance. Et ils découvrent, sur ces photos, des grandeurs et des merveilles de notre monde. Et au-delà de notre monde, de ce que l'on voit, ils découvrent tout ça avec stupeur. Parce qu'ils n'avaient jamais imaginé des grandeurs telles que ces chiffres n'ont plus même de signification pour nos sens et même notre raison. Qu'est-ce que ça veut dire, 150 milliards de kilomètres ? Je dirais 150 millions au milliard, ou milliards de milliards de milliards, que c'est exactement la même chose pour nous. Et après ça, qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Et la question, évidemment, qui fuse immédiatement, à la fin des cours. Mais madame, vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs ?
Ah bah oui, bien sûr.
Évidemment. Inutile de vous dire que je ne prétends apporter aucune réponse à ces questions que se pose l'humanité depuis son apparition. Ce n'est pas moi qui vais découvrir ça. Mais l'important, finalement, c'est de se poser la question. C'est qu'ils apprennent à analyser leur pensée, à l'exprimer avec des mots. Et c'est ça le mot important, s'exprimer avec des mots.
Et pas
par la violence.
Tout à fait.
Parler et oublier les coups. Et c'est ça qui est important. Et puis, je sens aussi qu'ils sont fiers en sortant du cours. Parce qu'ils ont eu accès à des connaissances qu'ils sentent bien supérieures à tout ce qu'ils ont connu avant. Et tout d'un coup, eux, employer le mot de lumière, en sachant ce que ça veut dire que la lumière sur le plan physique, en disant le mot rayonnement électromagnétique au lieu de dire lumière, ils sont grandis par ce seul mot.
C'est tellement beau ce que tu dis, parce que j'imagine que ça, d'un coup, ça sort d'eux, que cette lumière, elle se met dans le corps.
Oui.
De le dire, il fallait que ce soit dans le corps.
Et ils ont conscience, au moment où on leur explique tout ça, qu'ils ont accès à une connaissance que finalement peu de gens ont.
Tout à fait.
Et eux, ils l'ont, alors qu'ils n'ont pas eu d'éducation et qu'ils sont dans une prison. Et ils sont grandis. Et je le vois parce que ils n'arrivent pas à quitter la salle à la fin du cours.
Alors que c'est 3 heures.
Il faut que le surveillant tape à la porte 3 fois pour nous dire « sortez, c'est l'heure ». Et ils partent à reculons, pas après pas. Et en se retournant, en posant encore une question et encore une, « mais madame, vous croyez que ?» Et entre eux, « mais pourquoi tu dis ça ?» et à moins que... Et puis finalement, il y en a toujours un qui se tourne. L'air méditatif en se grattant la tête, en parlant, en partant et en disant « Ah là là, madame, ça fait réfléchir tout ça. Hein. Qu'est-ce que je peux souhaiter de plus ?»
C'est magnifique.
Bon, alors bien sûr, alors surtout à notre époque où on nous dit en ce moment tous les jours à quel point il y a une montée d'obscurantisme scientifique, notamment chez les jeunes, ce qui est très alarmant. Qui prétendent que, ben non, la Terre est plate, ben non, on n'a jamais été sur la Lune, ben non. Voilà. Alors, j'espère jouer mon petit rôle dans cette vulgarisation.
Ils ont envie d'acheter des bouquins et tout.
Mais heureusement, ils en ont dans leur bibliothèque, mais il est question justement d'en mettre d'autres.
Ah, bravo, bravo.
Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. On réfléchit comme ça à la sortie du cours, et puis bien vite, bon, c'est pour eux comme pour nous tous dans notre quotidien, les problèmes matériels, les difficultés de la cohabitation dans un lieu fermé, violent, ont au fait de les faire redescendre de ces réflexions. C'est pour ça qu'il est important de se retrouver régulièrement pour continuer cet amorçage, cette discussion.
D'éclairer cette conscience.
Voilà. Et puis, comme on est modeste, eh ben, on se dit que si on a pu meubler tant soit peu, même pour quelques heures, la solitude qui est la leur, le désespoir, bien souvent, par ces concepts grandioses qui font qu'on se sent tous très, 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 très petits, mais en même temps petits, mais éblouis de cette beauté. Alors, on continue. Et puis quand on les voit, quand on voit les lieux surtout, le contraste est saisissant. On ne peut pas l'oublier. Entre la grandeur évoquée, la grandeur montrée par les photos, les mesures astronomiques, si grandes qu'elles nous sont inconcevables. Et puis on lève les yeux, et qu'est-ce qu'on voit ? La laideur, la petitesse, la grisaille uniforme de cet environnement. On voit la dépendance de ces hommes pour le moindre de leurs actes, parce qu'évidemment, ils ont perdu leur liberté.
Pour tout.
Pour tout. Et leur difficulté pour garder simplement leur dignité. Alors, on essaye de s'abstraire et on continue.
On va faire une pause, Monique. Et puis ensuite, tu pourras poursuivre et conclure. Tu nous proposes Prélude de Bach. Tu nous diras pourquoi après l'écoute. Merci. Nous venons d'entendre Prélude de Bach. Vous êtes sur IDFM, la radio de toutes les générations. Vous écoutez votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Je m'appelle Céline Dupuis et je suis en compagnie de Monique Pellerin, un médecin professeur d'astronomie pour les détenus. Alors, Monique, tu as choisi Prélude de Bach. Peux-tu nous dire pourquoi ?
Eh bien oui, j'ai choisi Bach parce que c'est le musicien qui, à mes yeux, et je pense pour beaucoup d'autres aussi, nous relie le plus à l'abstrait, de manière globale. Alors d'abord, le prélude que vous venez d'entendre, c'est pas, il n'y a pas que Bach dans ce prélude, puisque lui, il l'avait écrit pour un autre instrument, et ça a été transcrit par le piano, par le romantique Franz Liszt.
Oui.
Donc on a un mélange à la fois de la musique de Bach avec ce qu'elle a de perfection dans la construction et dans toutes ces mélodies qui s'entremêlent pour nous atteindre, et un mélange avec une interprétation romantique puisque ça a été transcrit par un romantique qui parle à nos sentiments. Donc Bach, plus que tout autre musicien, nous relie à l'astronomie, parce qu'il transcende complètement la matérialité et même nos sens. Lui ne nous parle pas de nos sentiments, de ce que nous ressentons. Lui, il va au-delà de nous. Il nous transcende. Il est au-delà de tous nos moyens d'expression. Bach, on l'utilise quand on n'a plus de mots pour dire les choses. Il parle à notre âme et pour moi, il nous transcende totalement. Donc, il illustre bien le but de ce partage, de cet enseignement. Plus que connaître des choses matérielles, c'est un prétexte pour apprendre à réfléchir, apprendre à s'exprimer, à voir au-delà des choses matérielles immédiates. Il faut oublier les barreaux derrière lesquels on est, au moral comme au physique dans le cas des détenus, et il faut déboucher sur une réflexion plus grande que nous vers la philosophie, vers la spiritualité. Pour certains, ça va même être la religion, c'est possible. Tout est affaire de croyance.
Waouh ! Monique Pellerin, merci infiniment, c'était sublime. Enfin, moi, je me suis régalée de faire cette émission avec toi. Merci beaucoup.
Eh bien, alors, il faut apprendre l'astronomie.
Ah bah alors. Mais on va essayer de mettre en place un cours alors. Hein. Attention, hein, c'est pas rentrer dans l'oreille d'une sourde. Et puis, merci infiniment à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, pour avoir suivi cet échange. Merci pour votre fidélité à cette émission et à votre radio IDFM. Merci aussi à notre technicien, aujourd'hui c'est Francky, qui est aux manettes, avec ses doigts de fée. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver tous les podcasts de cette émission, Les Passages, entendez-le comme vous le voulez, sur le site idfm98.fr. Pour nous contacter, l'adresse mail est contact@idfmradio.fr. Le numéro de téléphone 01 34 12 12 22. Je vous invite à rester à l'écoute de notre antenne sur la bande FM 98.0 FM et maintenant en DAB+. Dès demain, dimanche, à midi, vous pouvez écouter une autre émission Forme, Santé et Bien-être. Quant à moi, j'aurai la joie de vous retrouver le samedi 4 mars à midi pour votre émission Les Passages, entendez-le comme vous le voulez. Nous parlerons de naturopathie avec Marie M. Et ce sera sur IDFM, la radio qui nous rassemble.